Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la sexologie, l'étude des comportements des individus au sein du couple. Et nous accueillons une nouvelle fois aujourd'hui Joëlle Gourrier. Bonjour.
Bonjour Gaëlle.
Vous êtes notre intervenante, notre invitée pour cette série d'émissions et vous nous parlez de cette thématique des composantes relationnelles dans les relations donc entre les individus et particulièrement dans le domaine de la communication. Lors de notre dernière émission, vous nous disiez que vous considérez qu'il n'est pas nécessaire de tout connaître de son partenaire. Alors, okay. Je vais vous poser cette question pour être sûr de bien en saisir le sens. Est-ce que ça veut dire qu'il est impératif d'avoir un jardin secret ou est-ce que certains domaines de la vie doivent être expliqués en prenant le temps, etc. Comment est-ce qu'on doit comprendre cette notion de limitation dans la communication avec son partenaire ?
Alors, le mot impératif, non, je n'irai pas jusque-là. Mais je pense, par exemple, à ce phénomène qui est assez fréquent actuellement, des familles recomposées, des couples recomposés. Je me rends compte que devoir ou vouloir tout raconter ce qu'on a vécu avec l'autre,
avec
l'ancien, est très pernicieux.
Oui, parce que finalement, ça incite une comparaison.
Absolument.
Et dans cette comparaison, ça va révéler des différences.
Oui.
Et des différences particulièrement dans les domaines des limites de notre nouveau partenaire, qui n'étaient pas les limites du précédent.
Absolument.
Avec la fameuse phrase, si t'étais si bien avec lui ou avec elle, qu'est-ce que tu fais avec moi ?
Exactement. Et si vous voulez, quand un petit jeune rencontre une petite jeune, il y a rien dans les placards ou très peu.
Il y a pas de gros dossiers
et ils vont construire leur vie d'adulte ensemble et c'est comme ça. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on a 40 ans, 50 ans, il y a eu des ex.
Et qu'il y a eu, évidemment, oui.
Il y a eu des ex, s'il y a eu des ex. Et s'il n'y en a pas eu, il y a eu d'autres choses quand même. Et vouloir absolument tout savoir ou vouloir tout raconter, ce qui est aussi le cas, je veux qu'elle sache, je veux qu'il sache tout de moi. Et ça peut revenir en boomerang. Ça amène des doutes, ça amène des questionnements, ça. Et là, malheureusement, je trouve que c'est pas forcément utile.
Donc le cadre est bien placé par rapport justement à ces situations où on a chacun son vécu de part et d'autre et que ce vécu, pas seulement émotionnel et sentimental, mais également ce vécu physique avec d'autres partenaires avant, un ou plusieurs selon les cas, il faut faire attention parce qu'il viendra impacter notre nouvelle relation si on laisse trop de communication sur ce sujet. C'est ça que vous voulez dire.
C'est un peu ça. Donc la communication pour moi, c'est avec ce couple, c'est dans ce couple-là et avec son histoire à ce couple-là, pas aux anciens couples. Malheureusement, c'est pas toujours aussi facile que ça parce qu'il y a des ex qui ressurgissent et quelquefois il y a des ex aussi qui sont impérativement là parce que on a été un couple parental et qu'on le reste.
Si on doit partager les enfants, forcément, on est confronté à ses ex.
Exactement. Et donc, là, ça peut impacter, mais sans qu'on le veuille. Voilà. Mais dans les familles recomposées, souvent, une grande difficulté de communication, soit parce que la nouvelle personne peut être jalouse de la relation qui reste quand même au niveau parental, soit parce que cette ex va venir, mettre un peu le caillon, quoi.
Provoquer des secousses.
Des secousses. Mais pour revenir à la communication dans le couple et autour de la sexualité, je dirais que c'est compliqué parce que parler de sa sexualité ou de la sexualité de l'autre peut être vécu comme une ingérence. C'est-à-dire, il y a la fameuse question de monsieur à madame. Qu'est-ce que tu aimes ? Bien. Alors, souvent, ce que les femmes me disent, c'est « mais j'en sais rien ». Hein? Parce que elles se sont quelquefois développées avec, on a parlé des jugements de valeur, des systèmes de pensée, des croyances, des idéologies. Une femme qui n'a pas eu l'occasion de se connaître, de connaître son corps par ses propres mains, comment peut-elle dire à l'autre ce qu'elle aime ? Elle peut pas le dire, elle ne le sait pas. C'est compliqué pour elle. Et
ou alors il faut qu'un partenaire précédent le lui ait fait découvrir.
Oui, mais de toute manière, elle l'aura pas développé par elle-même.
Donc elle sera incapable d'expliquer comment en arriver là.
Exactement. Donc elle peut. Si elle change de partenaire, c'est peut-être parce que soit le partenaire est parti parce que ça lui convenait plus à lui, mais ça pouvait ne plus convenir à elle. Mais si elle n'a pas fait la démarche de l'auto-découverte, elle peut rien communiquer à ce niveau-là. Hein? Et elle peut avoir comme idéologie que certaines caresses ne se font pas, que c'est pas, que ça va pas.
Placer sous tabou pas mal de pratiques ou de sujets dans l'intimité.
Oui, alors elles sont taboues pour elles, donc ça va, elles vont les passer sous silence.
Il faut que ça reste tabou.
Il faut que ça reste complètement tabou, oui. Alors le mot tabou, c'est un mot un peu valise, hein. On met tout et rien dedans. Qu'est-ce qu'un tabou ? Un tabou, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et le mot tabou a été inventé, c'est le tabou originel, c'est le tabou de l'inceste. Donc, un père, une mère ne touche pas les parties génitales de leur enfant dans un but précis. C'est-à-dire, effectivement, la maman, elle est bien obligée de les toucher ou de les toucher pour le nettoyage.
Bien sûr.
Mais il arrive un moment où elle enseigne à son enfant
comment se laver.
Et à ce moment-là, si ça persiste, c'est-à-dire si à 8-9 ans, elle continue à nettoyer le sexe de son enfant, elle est incestuelle. On est bien d'accord. Parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait dû apprendre à son enfant comment se laver les fesses. Et qu'est-ce qu'on doit laver.
Bien sûr.
Voilà. Donc, que les choses soient claires. Mais, donc, ce mot tabou, finalement, parce qu'on a interdit l'inceste, parce que c'est un fait de société, l'inceste. On ne doit pas incester son enfant. Ça, c'est clair. Et du coup... C'est devenu, on ne parle de rien.
Parce qu'on ne doit pas,
voilà.
À cause de ce tabou,
voilà.
Tout devient tabou.
Voilà.
Toute la sexualité.
Voilà, toute la sexualité. Donc, on n'en parle pas en famille, on en parle très peu à l'école.
Dans le sens, très peu à l'école, dans le sens, il n'y a pas d'éducation dans ce domaine.
Est-ce qu'il n'y a pas d'éducation ? Est-ce que vos enfants n'ont pas reçu d'éducation actuellement ?
J'avoue qu'actuellement, je ne sais pas, mais en tout cas, à mon âge et à ma période, il n'y en avait pas les années 80.
Et vos enfants ne vous en ont jamais parlé ? J'avoue que je suis un peu... donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai vécu très très longtemps en Suisse, où l'éducation sexuelle fait partie de l'enseignement. Par des personnes qui sont spécialement formées à ça, à la sexologie, mais à la sexologie
adaptée aux enfants,
et qui font un travail magnifique.
Ça permet cette éducation, pour reprendre l'exemple suisse, permet une meilleure compréhension de son corps et surtout du fonctionnement de l'autre aussi.
Alors oui, bien sûr, tout est abordé. Avec le langage adapté à chaque âge, avec les images adaptées à chaque âge, mais c'est abordé. Et il faudra que je me renseigne si c'est quelque chose qui est fait en France de façon systématique.
Il y a eu une certaine levée de bouclier ces derniers mois
par rapport à cette
thématique.
Il me semble.
Donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est encore délicat parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur ce sujet-là, des choses qui hélas, Internet véhicule beaucoup de bêtises.
Oui.
Et beaucoup de bêtises ont été véhiculées par le web et de la désinformation a été faite à ce sujet.
Oui.
Donc c'est vrai que quand on part sur ce principe, c'est difficile d'avoir une discussion construite.
Tout à fait. À ce propos, je me souviens avoir lu, par exemple, l'intervention d'un père sur Facebook, très, très virulent, qui véhiculait le fait que ces gens-là allaient apprendre aux enfants en classe à se masturber.
Mmh.
Je ne sais pas où il était allé chercher ça. Parce que mes collègues n'ont jamais eu cette intention-là. Et je ne vois pas l'intérêt. L'enfant sait le faire.
Il n'a pas besoin de...
Il n'a pas besoin qu'on lui montre. Il sait faire ça depuis
qu'il est
bébé.
Et si on étudie l'histoire de la sexologie avec les tout premiers, le fameux Dr Masters, qui ont travaillé sur cette thématique, on s'est rendu compte déjà à cette période-là qu'on avait eu beau mettre la masturbation comme un tabou, justement, à ne surtout pas pratiquer. On attachait les mains des enfants la nuit pour être sûr que, etc. Et finalement, on se rendait compte qu'à l'âge adulte, ils redécouvraient leur corps, quoi, finalement. Et qu'ils le pratiquaient eux-mêmes naturellement.
Ou ils le faisaient pas, mais avec toute la problématique psychique que ça entourait, quoi.
Oui, c'est que la sexualité était devenue complètement bridée.
Complètement, et quelque chose de difficile à vivre, alors que ça fait partie des besoins de base dans cette fameuse pyramide de Maslow. Oui, bien sûr, c'est là, hein.
Donc en tout cas, on ne parle pratiquement pas d'un point de vue éducationnel à l'école de sexualité, mais après dans les couloirs, le fameux dans les couloirs, entre élèves, entre jeunes, en grandissant avec l'âge, là par contre, il s'en dit beaucoup, mais pas forcément du constructif.
Alors on parlait d'Internet tout de suite, moi je dirais que la communication via Internet est tellement pernicieuse qu'elle amène des choses, la banalisation de la pornographie par exemple, qui, alors c'est pas du tout d'un point de vue moral, mais amène à des addictions et à des difficultés de certaines personnes, parce qu'elles vont plus pratiquer une masturbation devant de la pornographie et ne plus avoir la possibilité d'avoir une sexualité relationnelle avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils restent centrés sur eux-mêmes. Hein, et donc, ça les isole. Mmh. Hein, de la composante relationnelle de la sexualité.
Oui, en tout cas, cette problématique de la pornographie n'est pas une source qui permettra à un individu de bien construire sa sexualité, ni celle de son couple en cours ou à venir. Joël Gourrier, je rappelle, nous évoquons actuellement, dans le cadre de cette série sur la thématique de la sexologie, les composantes relationnelles. Nous parlons de communication. Et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre sur ce sujet. En attendant, à tous ceux qui nous écoutent, ce magazine est à retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org et donc à très bientôt sur cette antenne.